I remember that I was.
Moi, je me souviens.
Guitar, neck.
Le manche de la guitare était comme un serpent électrique qui n'arrêtait pas de bouger. C'est pour ça que je faisais des grimaces. J'essayais de dresser le serpent pour pouvoir jouer. Et puis, je me suis dit, mon Dieu, plus jamais je referai ça.
Dans l'épisode précédent...
Dieu, si tu pouvais me garder en rythme et dans la tonalité, c'était ma première mantra d'ailleurs.
God, please,
mon Dieu, je t'en prie, je promets que je ne recommencerai jamais. Je ne reprendrai jamais de LSD. C'est le truc à pas faire. Mais grâce à Dieu, la performance qu'on a donnée au public, Soul Sacrifice, c'était électrique.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Very good trip. Woodstock 1969. Mishka Assayas.
C'est la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 1969. 100 000, 200 000, 500 000 personnes, qui sait, aucun moyen de les compter. Elles sont arrivées de toutes parts et il n'y a plus de barrières. Campe dans le champ de luzerne de l'éleveur Max Jasger. L'ambiance bucolique de la veille s'est volatilisée, les pluies incessantes ont transformé le terrain en bourbier et le spectacle, une marée de formes molles recroquevillées dans des sacs de couchage détrempés, les vêtements transformés en éponges et celui d'une dévastation. Proud Mary, le titre le plus connu du groupe californien Creedence Clearwater Revival, dont l'apparition et la prestation énergique en pleine nuit devant une masse de corps endormis vont revêtir un caractère surréaliste au plein sens du terme. On va y revenir. En attendant, il est minuit au festival de Woodstock. Le groupe Mountain vient tout juste de se produire. Mountain, alors c'est bien trouvé, a pour point focal un guitariste de 130 kilos, coiffé d'un épais casque de cheveux crépus et vêtu d'un gilet sans manches à très longues franges. Leslie West. Alors c'est difficile de ne pas le remarquer. À cause de son poids et de sa carrure, il a fallu que les musiciens empruntent non pas un, mais deux hélicoptères pour se rendre sur les lieux. Alors Leslie West a connu une sorte de révélation mystique en découvrant Eric Clapton et son groupe Cream sur la scène du Fillmore East à New York. Son absorption de pilules hallucinogènes juste avant d'aller voir Cream a certainement joué un rôle non négligeable dans cette révélation. En tout cas, Leslie West a donné une ambition, on pourrait dire une mission, devenir le Cream américain. Il a pour ça embrigadé un remarquable musicien, Felix Pappalardi, associé aux enregistrements à New York de son modèle anglais, donc Cream. Enfin, vers minuit, le groupe que tout le monde attend, celui que les hippies les plus fervents guettent dans une sorte d'attente mystique, c'est The Grateful Dead. Mais au lieu d'être le moment de communion psychédélique et hallucinogène que chacun espère, c'est une sorte d'apocalypse qui va accueillir le groupe de San Francisco. En effet, on explique aux musiciens de The Grateful Dead et à leur équipe que le matériel très impressionnant qu'ils viennent d'installer, le plus important du festival, est trop lourd pour le plancher, qui menace de s'effondrer. De puissantes rafales de vent font violemment claquer la bâche, censée les protéger de la pluie, et puis c'est la tempête. Des rafales éclaboussent régulièrement la scène qui ressemble au pont d'un voilier atteint par une voie d'eau. Le système électrique n'est plus relié à la terre. La sonorisation émet un grésillement si fort qui couvre la moitié du temps le son des instruments. Elle capte aussi accidentellement les ondes radio des communications des hélicoptères. Les musiciens de The Grateful Dead reçoivent même des décharges électriques. Et le guitariste et chanteur Bob Weir, qui s'apprête à un moment à toucher son pied de micro, raconte qu'il a vu une sorte d'éclair bleu, gros, je cite, comme une balle de baseball, jaillir entre sa main et la tige métallique. « J'ai été comme projeté à 3 mètres en arrière contre le mur d'ampli », se souviendra-t-il. Dans ces conditions, le groupe, qui doit s'arrêter plusieurs fois de jouer, ne parvient pas à soulever le public et à créer la transe vers laquelle il tente de s'élancer sans succès. Jerry Garcia, le regretté fondateur du groupe, aura d'ailleurs des paroles définitives. Il y a des gens dont la carrière a démarré grâce à Woodstock. Nous, il nous a fallu 20 ans pour faire oublier ce qui nous est arrivé là-bas.
On était nuls à Woodstock. À Monterey, on était mauvais. Mais à Woodstock, on était carrément nuls. On jouait la nuit. Il y avait des spots blancs sur les tours, à 100 mètres de nous. Et puis ce public immense, 300 000 personnes, voire davantage, et on ne voyait personne. La scène était en métal et il y avait des gens derrière les amplis qui criaient « La scène s'effondre ! La scène s'effondre !» Et moi, je suis là à jouer. Et il pleuvait, d'ailleurs. Donc, il y avait des éclairs d'électricité sur scène, jusqu'à la guitare, d'ailleurs. En plus de ça, on planait tous, autant qu'on était. On était comme des insectes sous un microscope. Horrible. Donc, c'était un cauchemar pour nous. Tout le monde a adoré, hein, tout le monde s'est bien marré. Nous, on était nuls et on n'avait qu'une envie, c'était de se barrer de là.
Vers 2h du matin, tout le monde ou presque est endormi. John Fogerty, le chanteur et guitariste du groupe Creedence Clearwater Revival, s'attendait à tout, sauf à ça. Je cite ses propos. « Depuis la scène, c'était un spectacle dantesque. Tout ce que je voyais, c'était des rangées de corps couchés, recroquevillés, emmêlés les uns aux autres, trempés dans la gadoue, tous en train de dormir. » C'est dur pour Fogerty. Son groupe, de loin, était le plus populaire de tous ceux qui se présentaient au festival de Woodstock. Deux de ses chansons, on a entendu une, Proud Mary et puis Bad Moon Rising, n'avaient pas cessé de passer toute l'année à la radio et dans les jukebox des États-Unis. Son manager a obtenu pour Creedence la somme maximale de $10,000, uniquement égalée par Janis Joplin et Jefferson Airplane. Jimi Hendrix étant considéré hors catégorie. John Fogerty, son frère Tom à la guitare rythmique, Stu Cook à la basse et Doug Clifford D. Cosmo à la batterie ont beau être des Californiens de Oakland, à la ville qui jouxte San Francisco, ils n'ont strictement rien de hippie. Le seul élément qui peut prêter à confusion, c'est le gilet sans manches à franges, encore un, que porte ce soir-là John Fogerty. Ces musiciens sont en fait plutôt des traditionnalistes, dans le genre de John Sebastian, qui sont tournés à la fois vers le rock'n'roll de la Nouvelle-Orléans, le blues boogie, la country traditionnelle et même le cajun louisianais. Leurs chansons sont brèves, percutantes, mélodieuses, portées par une énergie joyeuse et sans prétention qui met tout le monde d'accord. Sauf que pour Creedence, l'horaire est désastreux et que les conditions régnant sur scène restent inquiétantes, même si la pluie a cessé. Après avoir joué plusieurs chansons avec toute la fougue possible, Creedence ne parvient toujours pas à réveiller cette étendue de hippie assoupi. John Fogerty, qui commence franchement à se désespérer, scrute la foule. Soudain, à environ 300 mètres de distance, il voit la faible lueur d'un briquet vaciller au cœur de cet océan nocturne. Quelqu'un s'époumonne au loin et sa voix, affaiblie par la distance, parvient jusqu'au chanteur. « T'inquiète pas, John, on est avec toi !» Fogerty aura plus tard ce commentaire. « Tout le reste du concert, eh bien j'ai joué pour ce gars. »
jungle.
Very good trip. Woodstock 1969.
Ladies and gentlemen, Creedence Clearwater Revival.
Sur France Inter et la RTBF.
How are you? How I mean
Mishka Sayas.
How are you out there? Are you okay?
Comment ça se passe pour vous bien?
You're not
Vous êtes défoncé, mais enfin vous avez de l'eau et un endroit où dormir quand même.
What does that mean? Because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving.
Parce que la musique, c'est fait pour se sentir bien, hein, pas pour se colter avec la merde que d'autres vous imposent. Vous voyez ce que je veux dire?
Just to like music. You know what I mean? You don't. So, so if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man.
Janis Joplin, présente depuis la veille, a sans doute un peu trop forcé sur sa liqueur préférée, le Southern Comfort, à force d'attendre que la scène se libère pour elle et ses nouveaux musiciens. Il est alors 2h30 du matin. À son arrivée, les premiers rangs se sont redressés et ont repris vie. On l'acclame. Il faut dire que Janis Joplin a connu une très grande popularité grâce à Monterey Pop, c'est un documentaire sur le festival de Monterey qui s'est tenu à 200 km au sud de San Francisco, c'était en juin 67, un documentaire qu'il a révélé à un vaste public, qui a révélé une chanteuse à l'intensité à nul autre pareil. Et l'album qu'a publié le groupe qu'il a fait découvrir à San Francisco, Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, a connu un très grand succès en 1968. Cependant, le lien de Janis Joplin avec le mouvement hippie est assez mince. Certes, elle confectionne elle-même ses vêtements à partir de fripes et recourt à des substances chimiques, dans son cas l'héroïne qu'elle prend en cachette, on ne s'en glorifie pas à l'époque. Mais enfin, elle s'est séparée de son groupe d'origine, Big Brother and the Holding Company, qui entraînait ses chansons vers des ambiances psychédéliques. Et ses nouveaux musiciens, avec lesquels elle se présente sur la scène de Woodstock, le Cosmic Blues Band, ont sans doute moins de folie, ce que certains d'ailleurs n'hésiteront pas à lui reprocher, mais enfin, il joue un blues électrique plus classique et plus resserré uniquement au service de la voix de Janis Joplin.
Thank you.
I said, you're gonna wanna go on a spread your wings, yeah. Turn your team to the sky. Ever gonna let you down, cause I just wouldn't let it do it. No, 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 no. Hush, baby, 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 baby. No, 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 you cry. Oh.
Summertime, une reprise du célèbre air de George Gershwin dans la comédie musicale Porgy and Bess, est devenu un standard. Les Anglais des Zombies en ont récemment enregistré une version magnifique, c'était au milieu des années 60. Summertime, transformé, démonté, tordu et remodelé sur la scène du festival de Woodstock dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 1969 par Janis Joplin avec son Cosmic Blues Band. Alors Janis Joplin, c'est un phénomène unique et quand on y pense, une énigme. Oui, par quelle étrange télépathie cette jeune femme blanche élevée dans un milieu conventionnel d'une ville du sud du Texas, s'est-elle connectée avec le blues le plus âpre et le plus profond, celui d'avant sa naissance de Bessie Smith, son modèle? Eh bien la raison en est peut-être, c'est une hypothèse, la souffrance profonde qu'elle a endurée dès l'enfance, où elle a dû essuyer les moqueries des autres enfants qui la jugeaient moche, enfin carrément hideuse, jusqu'à ses condisciples de l'université de Austin au Texas qui l'avaient élu par moquerie, je cite, « le mec le plus moche du campus ». Janis Joplin, c'est un bloc de souffrance inentamée qu'elle ne peut expulser qu'en chantant avec une sensibilité, une douleur et une violence qui laisse le public pantois. Elle peut aussi d'ailleurs être traversée par une joie d'enfant. Elle est en somme le pendant féminin d'un chanteur soul comme Otis Redding. Rien n'est filtré quand elle chante. Et pourtant sur la scène du festival, c'est pas seulement parce que c'est le milieu de la nuit, beaucoup la sentent épuisée. Et pour ceux qui l'admirent, sa prestation n'est pas la meilleure de sa carrière, certes, mais c'est une peut-être des plus touchantes. Elle n'a alors qu'un peu plus d'un an à vivre.
Music's supposed to be different than that. I'll try just a little bit harder. You better, baby. And you know you got it. Try. Just a little bit harder. some more. I said I gotta put my arms around you. I said I got to hold my man. I said I gotta make you understand. Why, baby? I said I gotta bring you around to the inside of me. I said try.
Try Just a Little Bit Harder. Janis Joplin poursuit son récital chaotique en pleine nuit sur la scène du festival de Woodstock. Mais derrière la scène, c'est une autre sorte de chaos qui règne. C'est même carrément un vent de panique qui traverse les organisateurs. Ameuté par celui de Jefferson Airplane, Bill Thompson, plusieurs managers de groupes importants comme celui des Who, qui doivent eux aussi se produire cette nuit-là, voient bien que rien ne se passe comme prévu. Le festival est clairement devenu gratuit et incontrôlable. Et tout le monde se dit qu'une banqueroute s'annonce pour les organisateurs. On a bien donné aux managers et à leurs équipes des chèques qui étaient prévus, mais qui leur garantit qu'ils ne sont pas en bois? Alors, ils se liguent et ils exigent tous du cash tout de suite. Sinon, c'est simple, leurs groupes ne vont pas jouer. Un des organisateurs, le principal, Michael Lang, n'a pas de cash sous la main. Et à la banque, lui demande le représentant des managers. Bah, c'est samedi, elle est fermée. Ah bah c'est son problème, pas le leur. Pas de cash, pas de concert. Par chance, Michael Lang connaît le directeur local de sa banque, près de Bethel. Il lui demande d'aller chercher des billets de banque dans son agence qui est fermée. Il lui dit que c'est une question de vie ou de mort pour le festival. L'homme accepte d'y aller, mais il prévient, il n'est pas sûr qu'il va trouver la bonne clé pour ouvrir le bon coffre. Donc l'incertitude est totale. Michael Lang, pendant ce temps-là, sous sa tente, entouré par son équipe, attend le cœur battant au téléphone. 10 minutes passent, rien ne se passe, rien n'arrive. L'homme finit par appeler. « Ça y est, je suis dans l'agence, je vais chercher. » De longues minutes passent encore, le téléphone est ouvert, posé sur un bureau. Michael Lang entend des bruits divers, suivis de silence qui lui disent rien qui vaille. Et puis la voix de l'homme résonne à nouveau dans le combiné et il dit « C'est bon, j'ai trouvé !» Un « Ah !» de soulagement parcourt l'équipe de Michael Lang qui vient de s'écrier « On est sauvé !» à toute son équipe, étreinte par l'angoisse. Les Who vont pouvoir jouer. Encore un miracle de Woodstock. Quant à Janis Joplin, elle termine son récital par son tour de force « Ball and Chain ». « Ball and Chain », le cri d'une femme délaissée qui compare sa condition à celle d'un forçat, les chaînes et les fers aux pieds. Une chanson créée par une compatriote texane de Janis Joplin, Big Mama Thornton.
honey's looking all around me. I said everywhere I looked, I saw the rain. It wasn't your tears. It felt to me like dream. Something grabbed a hold of me. Felt to me.
Very good trip. Woodstock 1969. Mishka Assayas.
Une demi-heure après le passage de Janis Joplin, l'énergie est bien retombée. C'est le cœur de la nuit. Chacun s'est à nouveau blotti dans son sac de couchage à la recherche d'un sommeil réparateur. Mais un illuminé d'un genre qu'on n'a pas encore croisé va accomplir un nouveau miracle à Woodstock et réveiller les morts. Maurice Isserman.
J'ai vu Sly and the Family Stone. C'était vraiment un des moments saillants du festival. Imaginez, les gens étaient là depuis longtemps. Les concerts avaient commencé vers 2h de l'après-midi. C'était la 12e heure de musique. Alors c'est quelque chose d'inoubliable.
Oui, au milieu de la nuit, vers 4h du matin, une sorte de prêtre fou, vêtu comme un chef indien de l'âge psychédélique d'un ensemble blanc d'où pendent d'interminables franges, tend son bras vers le ciel. Il se fait appeler Sly, le rusé. Le surnom de Sylvester Stewart et son groupe familial s'appelle Sly and the Family Stone. Les organisateurs avaient pourtant hésité avant d'engager ce groupe multiracial de San Francisco, dont, il faut dire, la réputation avait de quoi inquiéter. Au récent festival de jazz de Newport, des centaines de fans, sans billets, galvanisés par le pouvoir messianique de ce Sly Stone, ont renversé les barrières et provoqué une bagarre générale. Mais cette nuit, la magie du festival de Woodstock va opérer à nouveau. Là où, en d'autres circonstances, une émeute incontrôlable aurait pu éclater et dégénérer, une sorte d'extase fébrile va parcourir cette foule qui semble brusquement dotée d'une puissance surnaturelle. Certains n'hésitent pas à comparer Sly Stone à un dictateur charismatique. Il est vrai que le souvenir du totalitarisme est encore proche, quelques 24 ans seulement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la source de son charisme est bien sûr tout autre. Sly Stone est un musicien noir qui a grandi dans le nord de la baie de San Francisco au sein d'une famille de chrétiens pentecôtistes. Alors les pentecôtistes, il faut préciser, c'est une secte chrétienne qui pratique quelques rites étranges comme ce qu'on appelle la glossolalie. Alors que désigne ce nom étrange? Eh bien c'est le fait que brusquement, un fidèle possédé par l'Esprit Saint peut se mettre pris de transe à parler dans une langue incompréhensible et délirante, une langue incompréhensible y compris pour lui-même. On désigne en anglais ce phénomène par l'expression « speaking in tongues », hein, parler dans des langues. Sly a chanté le gospel au sein de sa famille nombreuse avant d'étudier la trompette et la composition classique à l'université. Il a fait ses débuts à Oakland comme disc jockey, puis dès le milieu des années 60, il a composé des chansons et réalisé des disques pour des groupes de folk ou de rock blanc comme les Beau Brummels. Son orchestre, qu'il a baptisé « sa famille », entre guillemets, mêle des musiciens noirs et blancs, costumés dans des tenues extravagantes qui évoquent plus Las Vegas que le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Sly est le premier de l'histoire de la musique à mêler soul, jazz et rock psychédélique, on n'appelle pas encore ça le funk, dans un esprit de déchaînement et de délivrance collectif. Et puis l'ensemble est porté par un appel défiant à l'égalité raciale qui n'a rien d'une évidence en ces années-là. Une de ses chansons a d'ailleurs pour titre « Don't call me nigger, whitey »,« Ne m'appelle pas nègre, petit blanc ». Les tubes que Sly and the Family Stone viennent d'obtenir en 68, « Dance to the Music » et « Everyday People » ont eu un immense impact aux États-Unis. On parle alors de Sly comme d'un nouveau James Brown. Et tout comme Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone vont inspirer Miles Davis sur le point de lancer une fusion inédite de jazz, funk et rock.
My name.
Il est plus de 4h du matin quand Sly and the Family Stone quittent la scène du festival de Woodstock. Cette fois, les festivaliers, définitivement réveillés, se sont dressés comme un seul homme et ont dansé comme des possédés. Et ils ne vont même plus essayer de se rendormir. Ils sont prêts à vivre l'expérience la plus transcendante, voire extatique du festival, le concert des Who, qui accompagnera l'émergence de l'aube. Mais qui manquera de peu de plonger le public dans le chaos et la violence. C'est vrai, il s'en sera fallu d'un cheveu. C'est ce que l'on vous racontera dans le prochain épisode de la série. Tous mes remerciements et ma reconnaissance à Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé cette émission, à Mathilde Verfailly pour son infaillible soutien, Fabrice Desmaz à la technique et Julien Chabassu au Pro Tools. 1, 2, 3.